rira quand on le verra sous un jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur.
Salut à tous, vous êtes en direct sur Globule Radio.
Nous sommes installés dans la cour de l'école Jeanne d'Arc à Chamonix.
Il fait très beau.
C'est un temps parfait pour une émission dehors.
Globule Radio est venu nous voir toute l'année et nous a emmenés en voyage de presse dans la vallée du Trient.
C'est parti pour 2 heures d'émission en direct avec les CM2 de Jeanne d'Arc.
Bonjour, c'est Locline et l'équipe des VIP vers Naya Info Public. Nous sommes un groupe d'élèves de CM2 de l'école Jeanne d'Arc et on est parti en voyage de presse avec Globule Radio.
Bonjour, voici Charles. Nous sommes partis en train à Vernaya. D'ailleurs, merci au TMR de nous avoir offert le trajet en train pour interviewer des experts de la région.
On a établi 3 groupes. Le groupe de Zian, celui de Lucie et le nôtre avec Jessica.
On a fait une balade pour aller à la cascade de Pissevache. On a apprécié l'air, le soleil et l'eau de la cascade. Il faisait chaud ce jour-là.
Après avoir mangé, on est revenu près de la gare pour visiter les TMR. On a vu un wagon VIP, c'était très confortable. Voilà notre journée avec Globule Radio. Et on espère que notre émission vous plaira. C'est parti, alors pour donner l'ambiance, on commence avec les Bronzés font du ski. Je précise, c'est Charles qui a choisi cette musique.
I'm
Merci pour cette ambiance très joyeuse. Sur le chemin de la cascade Pisse-Vache, Lucie et Luna ont capturé les sons. C'est parti mon Kiki pour un reportage en immersion.
Alors ici on est sur le chemin et on est juste devant un marécage qui a été créé exprès en fait pour protéger une espèce de crapaud qui est en voie de disparition. Et puis ils ont créé tout cet endroit pour essayer de faire en sorte qu'il ne disparaisse pas, enfin que l'espèce ne disparaisse pas. Et on peut voir un petit peu, on essaie de regarder à travers les petites plantes, mais on n'en a pas encore trouvé des crapauds, donc voilà.
Nous cherchons un arbre, si c'est un cerisier ou un pommier. Il y a des pétales ? Lulu, c'est un pommier ou un cerisier alors ?
Ceci est un pommier et il y a des jolis pétales par terre et là j'ai une belle fleur rouge, orange, non jaune.
Jaune. Et là, nous avons trouvé quelque chose là-bas. Allez, on y va, Lulu.
Et nous nous rapprochons peu à peu de la cascade Pisse-Vache. Bonjour. Vous pouvez nous dire votre avis, s'il vous plaît?
Non, parlez-vous français? Australian.
English?
Yes.
Australian. Okay. Australia.
Well, can you give us how you feel like this place? Do you think it's nice or not?
It's very beautiful and very quiet, and the birds were very noisy and singing. I really enjoyed it.
Nous voilà arrivés à la cascade de Pisse-Vache. Je suis Lochlin, j'aime bien le télémark, surtout les compétitions internationales. J'ai interviewé Jacques Pache qui m'a parlé de la cascade Pisse-Vache. Je voulais savoir pourquoi ce drôle de nom.
Alors, on ne sait pas exactement pourquoi elle est surnommée Pisse-Vache, mais c'est une supposition, ce serait une touriste qui se serait arrêtée là il y a très très longtemps et qui aurait dit « Oh, on dirait une vache qui pisse », d'où le nom de cascade de Pisse-Vache.
Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cette cascade ?
Alors, je m'intéresse à cette cascade parce que je m'intéresse à l'histoire en général. Mais c'est encore à plus forte raison cette cascade, parce que mon ancêtre venait de Valorcine, il s'appelait Joseph Pache, c'est celui qui a construit le moulin ici au pied de la cascade en 1794. C'était un de mes ancêtres. Voilà, moi je suis un descendant de Joseph Pache de Valorcine, plus précisément de Barberine. Voilà.
Et il l'a construit tout seul ou on l'a aidé ou il était tout seul pour le construire ?
Bon, il a travaillé plus ou moins avec sa famille, mais tout au début, d'après les actes que j'ai retrouvés, il avait l'autorisation, il avait demandé à l'abbaye de Saint-Maurice, qui était en somme propriétaire de tout ça. Il avait démarré cette entreprise avec un associé, mais selon les papiers que j'ai vus, s'il n'a pas fait long, il a continué à exploiter tout seul pendant un certain temps. Et la dernière chose qu'il a exploitée, c'est la scie à eau jusqu'en 1863.
Est-ce que la cascade produit de la force hydraulique ?
Oui, la cascade produisait de la force hydraulique parce qu'il y avait un moulin qui était construit ici, dans la forêt, au pied de la cascade. Et le meunier travaillait avec la force hydraulique. En plus du moulin, il y avait une scie actionnée par la force de l'eau aussi, et un martineux. Un martineux, c'était deux immenses marteaux qu'on employait pour forger les outils, pour travailler à la campagne.
Ben là, je vois une ruine à côté de nous. Est-ce que c'est la ruine du moulin ?
Eh bien non, cette ruine qui reste là, ce n'est pas la ruine du moulin, parce que le moulin a totalement été détruit. Par la suite, après le moulin, on a construit une usine de fabrication de bois de fusil, dont on peut encore voir les vestiges ici, les vieux murs. Dont aussi la prise d'eau qui faisait actionner la roue à aube pour faire fonctionner l'usine de bois de fusil, de fabrication de bois de fusil.
Comment est-ce que la cascade produit de la force hydraulique ?
Alors comment elle produit de la force hydraulique ? ce que vous voyez là, on appelle un château d'eau. Alors l'eau venait stocker là-dedans, qui était prise au pied de la cascade, et après, elle repartait de là pour aller au moulin qui se trouvait un peu plus loin, là-bas. Et cette eau arrivait sur une roue à aube, je ne sais pas si vous savez ce que c'était une roue à aube, et cette roue à aube entraînait le fonctionnement du moulin, du martineux, de ces gros marteaux que je vous expliquais avant. Voilà comment elle fonctionnait le moulin avec la force hydraulique.
Quel est le rôle du barrage de Pissevache ?
Le barrage de Salanf, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai expliqué avant. Le rôle du barrage de Salanf, c'est une retenue d'eau qui maintenant descend dans la montagne depuis Salanf jusque vers l'usine électrique du village de Mieville qui produit de l'électricité. C'est le rôle du barrage de Salanf, c'est produire de l'électricité.
Est-ce qu'elle est liée à l'eau de la cascade Pissevache ?
Alors non, c'est pas lié, c'est parce que l'eau est prise directement dans le barrage de Salanf et il descend dans la montagne. Il y a une conduite souterraine dans la montagne, il descend directement depuis environ 2000 mètres à l'usine qui se trouve à Mieville, là-bas, à 450 mètres d'altitude. Mais de ce barrage, on laisse quand même couler un peu d'eau qui passe dans le vallon devant et qui rejaillit ici à la cascade de Pissevache.
Quelle est la hauteur de la cascade Pissevache ?
Sauf erreur, elle doit être de 113 mètres.
Est-ce que la cascade Pissevache est froide ?
Alors l'eau, oui, est très froide puisqu'elle vient de 2000 mètres d'altitude. Donc le glacier coule dans le barrage de Salanf et puis là, elle vient directement après, elle traverse le vallon devant pour venir après, du haut de cette chute, se jeter dans la plaine et ensuite aller se déverser dans le Rhône.
Comment la cascade est alimentée ?
C'est l'eau qui vient du barrage de Salanf. C'est ce qui alimente, ce qui fait la chute d'eau. Elle traverse tout un petit vallon, puis après, elle vient se jeter du haut de la cascade de Pissevache.
Où est située la cascade Pissevache ?
Alors, la cascade de Pissevache se trouve au bout de la vallée du Trien. Donc, elle surplombe le village de Mieville sur la commune de Verneuil. Et si les visiteurs veulent venir, il peut venir sans autre visiter la cascade de Pissevache. Il y avait un restaurant au pied de cette cascade. Malheureusement, en tout cas momentanément, il est fermé, ce qui n'empêche pas la visite de la cascade de Pissevache.
Ah oui. Et pourquoi aujourd'hui le chemin il est fermé ?
Alors, le chemin est fermé, mais il n'est pas fermé pour venir au pied de la chute. Depuis la route cantonale où les visiteurs viennent, on peut venir au pied de la chute pour visiter la chute. Par contre, en amont, le chemin est fermé pour cause de chutes de pierres qui seront peut-être rétablies une fois après l'avis des géologues qui vont venir inspecter la roche.
Bon, merci pour aujourd'hui.
Ben, merci à toi et puis je suis content d'avoir parlé de la cascade de Pissevache par l'intermédiaire de...
Le Clean
pour la radio Globule de Chamonix. Merci, au revoir.
Salut, je m'appelle Luna, je suis en CM2 et j'adore lire, surtout les mangas. J'ai une passion énorme pour le ski, j'adore le golf et la natation. J'ai aussi une passion pour les cristaux, c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet. C'est Yael Manteau qui m'a parlé des cristaux du Valais.
En Valais, en règle générale, on a quelques cristaux, on n'en a pas beaucoup. On a surtout du quartz. Qu'on en trouve en fait à Salvant, qui est juste en dessus ici de Verneuil. Et puis, alors après c'est des petits endroits où on n'en trouve pas beaucoup, mais on en trouve surtout dans le Haut-Valais, qui est plus loin. En fait, si on continue la plaine du Rhône, on en trouve dans le Haut-Valais, et c'est un petit peu secret en général les endroits où on les trouve. Et puis il y a aussi deux mines différentes, donc il y a une mine d'or et une mine d'uranium, et surtout la mine d'uranium qui se trouve au Marécotte, qui est assez connu, et puis on peut aller trouver l'entrée en fait quand on se rend au Marécotte. Donc pour se rendre au Marécotte, on prend la télécabine de Télémarécotte, on monte jusqu'au Marécotte, on fait un petite randonnée à pied, et puis on peut aller la voir là-haut, c'est assez intéressant. Et il y a aussi un jeu sur téléphone qui retrace l'histoire des mines d'uranium, si vous êtes intéressé à les regarder. C'est un jeu qui se fait sur le téléphone, donc c'est toujours intéressant à apprendre là-dessus.
Pourquoi on appelle ça des cristaux ?
Alors, c'est des cristaux, en fait, c'est une forme de roche qui est un petit peu différente que d'une simple pierre qu'on peut trouver par terre, parce qu'elle elle va être plus polie, plus jolie. On va l'utiliser aussi pour faire des bijoux, par exemple. C'est typiquement, on connaît tous les rubis, les pierres semi-précieuses et précieuses, mais chez nous, on a surtout du quartz, donc qui est un petit peu... qui est un peu moins joli que certains autres cristaux qu'on a, mais voilà.
Comment ont été créés les premiers cristaux de roche ?
Ou alors ça, je pourrais pas te dire exactement, mais je crois que c'est un petit peu lié aussi à l'eau, à l'endroit en fait où ça se trouve. Il y a certaines terres qui sont plus propices à créer des cristaux que d'autres.
Comment on les trouve ?
Alors, ça, souvent, bah, comme je l'ai dit, c'est un petit peu secret, les endroits où il y a des cristaux. Les personnes qui font ça, c'est leur métier, ils vont dans ces endroits et puis doivent casser la roche. Et puis, il y a un certain type de roche où on sait qu'on va trouver le quartz. On doit casser la pierre et puis retirer les parties où il y a du quartz pour ensuite, après, les ramener en atelier et puis créer, en fait, des choses, des bijoux ou des choses comme ça avec ces roches-là.
Moi, ce que j'avais vu, c'est que aussi on peut trouver des cristaux sur des fissures de roches, non ?
Exactement, ouais. Bah, c'est le même principe, sauf qu'en fait, au lieu de casser la roche, la roche, elle est déjà cassée, donc c'est plus simple de les trouver. Mais des fois, on peut aussi casser les cailloux en deux et on en trouve.
Comment se forme un cristal ?
Alors, les cristaux, ils se forment en fait sous de très hautes pressions et chaleur dans les profondeurs de la croûte terrestre. Donc, en fait, en gros, il y a des déformations qui sont causées quand les continents, ils bougent, comme la formation des continents, en fait, il y a très, très, très longtemps.
La formation de l'Italie et de la France, les Alpes, ça crée des cristaux, non ?
Oui, alors, ça dépend de... En fait, ici, on est entre deux plaques, les Alpes, et c'est pour ça que ça a créé les montagnes. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve aussi plus de cristaux. C'est exactement ça.
La fluorine est l'un de mes cristaux préférés. Est-ce qu'il y en a ?
Non, il n'y a pas de fluorine chez nous, non.
Comment on extrait les cristaux de roche ?
Alors, à l'époque, en fait, le travail, il était tout fait à la main. Mais maintenant, en fait, les cristaux et les autres minerais, ils sont plus du tout extraits depuis assez longtemps parce qu'on en a de moins en moins. Donc c'est vraiment à la main. Comme j'ai expliqué avant, on casse un caillou. Et puis, on va trouver, en fait, dans des fissures, des choses comme ça, les minerais.
Merci. Et pour rester dans la thématique des cristaux, nous avons choisi la chanson Diamant de Rihanna.
All right. like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Bonjour, je m'appelle Anae, j'aime beaucoup les mangas et les chats. J'en ai trois à la maison, ils s'appellent Roxy, Shadow et Charlie. Je vais vous parler de la protection des animaux dans le parc naturel de Trian. Les espèces les plus en danger sont la magicienne dentelée et le gypaète barbu. Une espèce en voie de disparition est une espèce pour laquelle il ne reste pas beaucoup d'individus. Il y a aussi les espèces menacées ou vulnérables. Yaël va nous expliquer cela maintenant. Tiens, au fait, j'ai découvert que l'année dernière, il n'y avait que 26 sauvages, tulipes sauvages dans les alpages du parc. Aujourd'hui, il y en a 1400. Si comme moi, vous vous posez des questions, n'hésitez pas à contacter le parc naturel de Trian. June a rencontré Yaël qui lui a demandé qu'est-ce que c'est un alpage.
Un alpage, c'est un endroit en montagne où en fait on va venir mettre les animaux l'été pour qu'ils viennent brouter l'herbe, pour ensuite qu'on ait assez d'herbe pour les animaux pour le reste de la saison. Puis après, dès qu'on a fini l'été, hop, on les ramène en bas, en pleine. Et du coup, comme ça, ils sont en nature et ils sont bien, en montagne l'été et où il fait frais aussi, ce qui est bien.
Qui sont les animaux d'alpage ?
Alors, on a surtout des vaches, mais on peut avoir des moutons, on peut avoir des chèvres aussi dans les alpages. Ça dépend tout des alpages.
À quoi sert les alpages ?
Alors, les alpages, en fait, ils servent à avoir assez de nourriture pour les animaux l'été. Et puis, ça permet aussi d'avoir l'été dans les alpages. Puis après, en fin de saison, on va redescendre en plaine. Et puis, au fur et à mesure, on aura toujours assez de nourriture pour les animaux. Donc, c'est quand même bien pour l'agriculture en général.
Est-ce que le Dahu existe pour vous ?
Pour moi, oui, il existe. J'aime bien y penser qu'il existe. Après, je ne l'ai jamais vu.
Au propos des animaux d'alpage, qui les protège ?
Ah, alors ça dépend. Des fois, on a des bergers qui s'occupent. Surtout maintenant, avec le loup et tout ça, on fait assez attention. Il y a des chiens aussi, exprès, qui protègent les troupeaux. Et puis, sinon, il y a les fils barbelés, les fils électriques, ce genre de choses qui peuvent les protéger.
Les règles à respecter, pour vous, c'est quoi ?
Alors, les règles à respecter, c'est surtout tenir son chien en laisse, surtout quand il y a des chiens qui protègent les troupeaux, parce qu'ils vont vraiment les protéger, donc ça peut être assez dangereux. Ne pas approcher des troupeaux, les contourner si on peut, et puis ne pas caresser les animaux ni les chiens, ne pas les nourrir et surtout faire attention aux chiens de protection parce qu'ils peuvent vraiment nous attaquer si on menace le troupeau, entre guillemets.
Bonjour, je m'appelle Lucie. Moi aussi, je suis en CM2 à l'école Jeanne d'Arc. J'aime beaucoup les pizzas. Ma préférée, c'est la margarita avec supplément jambon. Aussi, j'aime beaucoup les bonbons, surtout les dragibus, c'est les meilleurs. J'aime beaucoup Chamonix, c'est joli et je vis ici. J'aime regarder le Mont Blanc et les montagnes. Je suis une bonne skieuse en friski. Et je viens vous parler des animaux d'élevage car j'aime être éleveuse plus tard. Alors ma première question que j'ai posée aux personnes qui travaillaient là-bas sont quels sont les animaux élevés dans le parc ? Et ils m'ont répondu ce sont les vaches, les moutons, les chèvres et les poulets. Puis j'ai aussi dit quelle est la taille du cheptel ? Et puis après ils m'ont dit les agriculteurs ont en général 10 à 20 vaches, de centaines de moutons, des milliers de poulets. Il y a aussi plusieurs micro-agriculteurs qui ne possèdent que 2, 3 animaux, des citoyens avec plusieurs poules chacun. Et maintenant, nous allons parler des protections des animaux dans le parc naturel. Et la première question était, quelles sont les espèces vulnérables ? Ils m'ont répondu, il y en a beaucoup, mais la plupart sont toutes petites et rares. Pour les animaux plus grands, il y a le tétralyre, le gypaète barbu par exemple chez les oiseaux. Il y a aussi la plus grande sauterelle d'Europe qui a un joli nom, la magicienne dentelée. Ma deuxième question c'est, et vous me demandez, c'est quoi une espèce vulnérable ? C'est une espèce qui devient rare. Il y en a de moins en moins, cela veut dire que si elle continue à décliner, elle risque de disparaître dans le moyen terme. Mais c'est mieux d'être classée vulnérable qu'en danger, ou en danger critique. Pour les espèces en danger critique, il n'y en a plus que quelques-unes en Suisse, comme la magicienne par exemple. Du coup, c'était important de demander aux personnes qui travaillent au parc comment on les protège. Ils m'ont répondu de plusieurs manières. Il faut d'abord informer les gens qu'il faut protéger ces espèces. Et puis, il faut bien l'étudier pour bien la connaître et ensuite entreprendre des actions concrètes. Par exemple, on peut protéger sa maison. Comme un étang, si c'est une grenouille, on peut mettre des nichoirs sur la maison, sur les maisons et dans les arbres pour des espèces d'oiseaux. On peut les multiplier dans un jardin botanique si c'est une plante. C'est le cas des tulipes sauvages qui est rare. Au jardin botanique, les habitants pourront en avoir dans leur jardin pour s'en occuper et continuer à la multiplier. Merci et profitez bien du parc naturel du Trian. Au revoir. J'espère que mon sujet vous a plu. Maintenant, nous allons écouter Believer par Imagine Dragon et enjoy.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
Je m'appelle Charles, j'aime bien le ski, j'adore les compétitions, ce que je préfère c'est le géant. J'avais envie de vous parler des arbres futés avec Mathias.
Bonjour, je suis Mathias et j'aime bien l'escalade et je suis ici pour vous présenter mon projet Coquilles pour Climat. Le but du projet c'est de planter les arbres fruitiers dans la vallée de Chamonix dans des espaces publics. Ma mère elle m'a inspirée à commencer ce projet parce que elle a commencé sa propre association qui s'appelle Montblanc 2.0 avec son amie Ariane. Et j'ai voulu commencer mes propres actions et j'ai expliqué une ou deux idées à mes amis. Ça les a inspirés et ça m'a motivée à demander à d'autres enfants de m'aider à récolter des fonds pour acheter des arbres fruitiers et les replanter vers la vallée de Chamonix. Et donc on a commencé à Servoz et on a fait des plantations. On a planifié plusieurs plantations et on vend des pâtisseries pour récolter tout l'argent pour replanter des arbres fruitiers. J'ai déjà récolté pas mal d'argent pour planter des arbres fruitiers. Et maintenant, on écoute notre sujet sur les arbres fruitiers.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Oui.
Comment vous vous appelez? Je m'appelle Charles.
Et moi, c'est Mathias. Vous êtes ici pour nous parler de quoi?
Les arbres fruitiers.
Et j'ai entendu parler que il y a que des abricotiers ici. Ou est-ce qu'il y a d'autres espèces?
Il y en a d'autres espèces en fait.
Ah, comme quoi?
Pommes, poires, prunes, cerises et les abricots.
Bien sûr. C'est quoi la particularité des abricots de cette vallée? Et pourquoi cette vallée et pas une autre vallée? Il n'y a que des abricots, on va dire. Et est-ce qu'il faut une température spéciale ou une météo spéciale pour les abricots pour qu'ils poussent bien?
Adrien Favre m'a dit que les abricots sont fragiles. Ils aiment un printemps pas trop froid et surtout pas de gel quand ils ont les fleurs. Il m'a dit qu'en vallée, nous avons assez de soleil et de beau temps pour leur permettre de vivre.
Et comment ils font pour protéger leurs abricotiers quand il y a le gel?
Ils font ceci en allumant de grands feux et en aspergeant de l'eau autour des boutons des fleurs pour faire une petite couche de glace pour les protéger. À l'intérieur de la couche de glace, la température est de 0 degré.
Et je me disais, est-ce qu'il y a plusieurs étapes pour planter un arbre fruitier ou pas?
Oui, bien sûr. Première chose, tu mets la graine dans la terre. Après, tu l'arroses. Après, il faut avoir du soleil. Après, on attend quelques années. Après, c'est terminé, quoi.
Ah, d'accord. Donc, ça prend longtemps pour pousser.
Merci, les gars, pour toutes ces infos. Salut, je m'appelle Erilis. Je suis une fan de manga et je kiffe les aliens. J'ai deux autres passions. Le hapkido, un art martial coréen, et l'équitation western. Je précise, ça se pratique avec les selles des cow-boys. J'aime aussi l'escalade. J'aime beaucoup les endroits en hauteur. C'est pour ça que j'ai choisi le sujet des Gorges du Trien. J'ai demandé à Faustine, gérante d'un magasin floral à l'entrée des Gorges du Trien, où se trouvaient ces gorges.
Les Gorges du Trien se trouvent dans le village de Verneilla, au départ de la vallée du Trien.
Comment les Gorges du Trien ont-elles été formées?
Elles ont été formées par le travail de l'érosion sur des milliers et des milliers d'années et les roches dures sont restées pour donner cet effet de grand canyon qui forme les gorges du Trien.
Est-ce que vous savez me dire à peu près quelle hauteur font-elles?
Elles font 200 mètres de haut.
Waouh. Quelle largeur à peu près?
À peu près une cinquantaine de mètres. Et si on chemine jusqu'au glacier du Trien, ça fait à peu près 2000 mètres de longueur.
Est-ce qu'il y a des êtres vivants au fond des gorges?
Alors, il y a des poissons, des truites qu'on peut trouver. J'ai souvent la visite d'un héron le matin lorsque je vais ouvrir le parcours. Il y a des serpents, il y a des insectes, des araignées, des espèces assez variées. Il y a des colonies d'oiseaux et de chauves-souris aussi.
Donc, il y a beaucoup d'espèces diverses.
Oui, on peut aussi apercevoir des chamois de temps en temps. Par contre, tous les animaux que je vous ai donnés comme exemple, il faut vraiment prendre du temps pour pouvoir avoir la chance de les observer.
Combien de personnes les visitent à peu près par an?
On est à peu près 8000 visiteurs par saison.
Combien de temps prend la visite?
Alors la visite, au niveau des passerelles, fait à peu près 400 mètres de longueur. Pour les gens pressés, les gens font environ une quinzaine de minutes pour l'aller-retour. Et puis pour les rêveurs, je dirais une bonne demi-heure à 40 minutes.
Quelle est la masse d'eau à peu près au fond des gorges du Trien?
Alors tout dépend du temps qu'il fait. Si on a des pluies qui sont assez élevées, le niveau d'eau peut monter à peu près jusqu'à 1 mètre, 1,20 mètre de hauteur. Mais en général, c'est un lit de rivière qui est assez calme. Et puis cela aussi dépend des barrages qui sont plus hauts. Si ils décident d'ouvrir les vannes, on peut avoir un débit assez important qui peut être justement dangereux pour les gens qui s'aventureraient dans le lit de la rivière.
Est-ce qu'il y a des crues?
Ça arrive lors justement de fortes pluies, après la fonte des neiges et également lorsque les barrages décident d'ouvrir leurs vannes.
Comment accède-t-on en gorge ?
Alors, il faut venir à Verneuil. Donc vous avez la possibilité de vous rendre soit en train avec le Mont Blanc Express ou en bus ou en voiture. Et donc là, aujourd'hui, on se situe dans ma boutique de fleurs. On fait également office de point de renseignement et de billetterie pour l'accès aux gorges du Trien. Donc vous devez passer par la boutique pour vous rendre à l'entrée du site.
Quel est l'historique du site ?
Alors les gorges, en fait, ont été ouvertes pour le tourisme fin des années 1900. À l'époque, à Verneuil, il y avait un grand hôtel qui existe toujours, qui est actuellement le parc Genedis pour une entreprise d'électricité locale. Et cet hôtel attirait à l'époque beaucoup de clientèle. Et du coup, on a cherché avec le temps à occuper cette clientèle, à essayer de la divertir. Et les gorges de Verneuil ainsi que les autres de la région étaient créées vraiment pour des visites touristiques. Donc depuis des années et des années, ce parcours a toujours été découvert par les visiteurs de la région. Et actuellement aussi, on a des histoires sur l'historique. À l'époque, il y avait une verrie dans le village d'à côté et qui était alimentée par les troncs d'arbres qui étaient flottés, on appelait ça les flotteurs, qui étaient flottés tout au long de la rivière pour arriver justement à la verrie juste ici pour alimenter les fours pour la fabrique de verre.
Très intéressant. Y a-t-il une légende liée aux gorges du Trien ?
Alors, il y a une légende, effectivement, qui englobe aussi les autres gorges de la région. Cette légende, vous pouvez, si jamais, la télécharger puis l'écouter sur le site des gorges du Trien. Vous trouverez une vidéo en podcast qui explique vraiment la légende. En gros, c'est un lézard ailé qui venait s'abreuver dans les gorges de la région. Donc après, je vous laisse aller écouter le podcast en entier pour découvrir la légende des gorges.
Et si jamais je veux revenir avec mes parents et mon petit frère, quand est-ce que je dois revenir ?
Alors, en général, on ouvre toujours dans le courant du mois de mai. J'espère chaque année au début du mois de mai, mais après, c'est vraiment en fonction de la météo. Et on ouvre jusqu'à mi à fin octobre. Cela dépend de la météo, de nouveau. Et c'est vraiment une visite qui est accessible pour les tout-petits ou pour les personnes qui ont également des difficultés à se déplacer. Par contre, on ne peut pas venir avec une poussette. Hein. Je conseille aux jeunes parents de porter leurs enfants à la main.
Okay, c'était le sujet des gorges du Trien sur Globule Radio, dans la boutique de décoration florale de Faustine. Au revoir, merci.
Merci, au revoir.
Bon, c'est l'heure de rentrer. Voilà un petit aperçu de notre journée magnifique. On espère que vous avez apprécié cette journée avec nous.
Récoutez-nous en replay sur globule.chamonix.radio.
Au revoir.
Ciao.
Salut.
Au revoir.